et on retrouve Adrien Bossard pour le journal. Bonsoir Adrien.
Bonsoir. Édouard Philippe saisit l'inspection générale de l'administration après la mort de Steve Canizzo à Nantes, car on n'est pas plus avancé par les conclusions de l'IGPN. Le Premier ministre les dévoile et confirme qu'il n'y a pas de lien entre la mort du jeune homme et l'intervention de la police. C'est le cœur lourd que les ex-salariés de Whirlpool apprennent la nouvelle. La reprise de WN, lui-même repreneur de Whirlpool, est validée, mais laisse 138 employés sur le carreau. Et puis, sur les victimes collatérales du conflit en Afghanistan, les civils, 1360 morts depuis début 2019, inacceptable selon l'ONU.
France Inter.
Toute la lumière sera faite sur la mort de Steve Maya Canizzo. Édouard Philippe en fait la promesse aujourd'hui, alors que l'on sait depuis ce midi que le corps repêché dans la Loire hier soir est bien celui de Steve, disparu le soir de la fête de la musique à Nantes, au moment même où 14 personnes sont elles aussi tombées dans le fleuve lors d'une intervention des forces de l'ordre. Et justement, sur ce dernier point, le Premier ministre révèle les conclusions de l'IGPN, la police des polices. Pas de lien établi entre cette intervention et la mort du jeune homme. Sophie Parmentier.
Exactement, c'est la conclusion de l'IGPN qui avait été saisie il y a un peu plus d'un mois, dans les jours qui ont suivi la disparition de Steve Maya Canizzo, alors que les amis de Steve, dès le départ, accusaient les policiers de les avoir indirectement poussés dans l'eau à la suite de cette charge musclée sur ce quai de Loire où il n'y avait aucune rambarde. Alors la police des polices estime que les grenades lancées ainsi que les tirs de LBD ne permettent pas d'établir un lien direct entre l'intervention des forces de l'ordre et la disparition de Steve vers 4h du matin cette nuit de la fête de la musique. La police des polices insiste sur les difficultés liées à l'intervention des CRS appelés cette nuit-là pour couper le son des enceintes. Les CRS ont reçu des projectiles et c'est pour cela qu'ils ont utilisé les gaz lacrymogènes, est-il écrit dans ce rapport. Cet usage de la force était justifié et n'est pas apparu disproportionné, peut-on lire en dernière page de ce rapport de l'IGPN. Alors l'enchaînement des faits reste confus, concède le Premier ministre, qui ajoute que le rapport met en évidence des interrogations sur la préparation de cet événement, compte tenu de la proximité de la Loire. Les mesures préventives étaient-elles adaptées et proportionnées? Le chef de gouvernement a décidé donc aujourd'hui de saisir l'inspection générale de l'administration pour étudier aussi les responsabilités éventuelles de la mairie et de la préfecture. Et parallèlement, bien sûr, l'enquête judiciaire se poursuit, enquête désormais contre X pour homicide involontaire.
Sophie Parmentier du service police-justice de France Inter. À Nantes, aujourd'hui l'émotion est très forte. Depuis une heure, une centaine de personnes est rassemblée sur l'île de Nantes en hommage au jeune homme aussi. Dans le centre, des brassards noirs sont installés sur les statues de la place Royale et du colorant rouge est déversé dans la fontaine de cette place, devenue le symbole de la solidarité, de la colère surtout, pour exiger des réponses après la disparition de Steve. Éric Sago fait partie du collectif à l'origine de ces actions et il ne compte pas s'arrêter là.
On va changer de slogan. Justice sportive, qui a tué Steve? Il y a plein de slogans à faire. Il y a un long travail à faire pour le partout, à Nantes et un peu dans d'autres villes. Et on ne va pas lâcher l'affaire. Les responsables, le préfet, le commissaire qui a donné des ordres aberrants et les policiers qui ont été mais ultra brutaux contre les jeunes teufeurs doivent payer. Ils doivent avoir le nez dans le caca. Ça peut aller plus loin dans les actions. Ce sont des actions non violentes, ce sont des actions artistiques et il y en a qui sont préparées. Voilà, on prépare ça. On ne va pas abîmer les statues, on ne va rien casser. Ce sera des collages, ça va être des opérations comme ça. Ça nous prend tellement au boyau qu'on va aller jusqu'au bout. Même si ça dure un an, deux ans, on fera des actions.
Éric Sago au micro de Dylan Jaffrelo de France Bleu Loire-Océan. Cette fois, c'est vraiment la fin pour la plupart des anciens de Whirlpool. La reprise par WN n'aura duré qu'un an. La société est en redressement judiciaire et son repreneur Ageco ne garantit le maintien que de 44 emplois. Le tribunal de commerce d'Amiens valide le projet aujourd'hui de cette société d'agencement pour les commerces et collectivités locales. 138 salariés vont donc se retrouver au chômage, parmi lesquels Christophe Beaugrand. Il est entré à 20 ans chez Whirlpool et se dit aujourd'hui écœuré.
Je vais être honnête, je suis complètement écœuré, complètement dégoûté. Il y a 138 personnes qui vont être sur le carreau, 138 familles qui vont être à l'abandon. Ça impacte tout le monde, ça impacte les enfants, ça impacte les conjoints, les parents, les grands-parents qui se demandent comment on va faire pour payer nos crédits. Je suis très content pour les 44 qui vont être pris. Par contre, j'ai un sentiment d'écœurement. On s'est fait berner pendant des années parce qu'on a travaillé chez Whirlpool pendant un an en sachant qu'on allait être licencié. On a fait le boulot. Vous inquiétez pas, il y aura un repreneur. À l'entre-deux-tours, M. Macron est venu, nous a dit, vous inquiétez pas, il y a un repreneur. Et au bout d'un an, on est relicencié. Deux licenciements en un an, vous vous rendez compte? Moi, j'ai 42 ans, mais la moyenne d'âge, c'est 48 ans. Vous vous rendez compte un petit peu? Les gens sont écœurés. Ben, les gens, ils pleurent. De toute façon, les gens pleurent. C'est un sentiment d'écœurement.
Et pour les 44 salariés repris par AGECO, c'est un nouveau métier qui les attend après avoir confectionné des sèches-linges pour Whirlpool, puis des casiers connectés avec WN. En pleine période estivale, ça la fout mal, très mal même. Les Sables d'Olonne se retrouvent toujours sans bateau d'intervention en mer depuis le naufrage de sa vedette, partie porter secours à un pêcheur début juin. Et la commune vendéenne n'en aura pas avant un bout de temps, car la station de l'île de Saint dans le Finistère refuse de prêter son canot. Décision actée aujourd'hui pour la sénatrice de Vendée, Annick Billon, c'est un gros échec, mais un échec de gouvernance de la part de la SNSM et pas des politiques.
C'est pas un échec politique, c'est plutôt un échec de la gouvernance et de la manière d'appréhender les choses au sein de la SNSM. C'est-à-dire qu'on propose une solution qui est contestée à l'île de Saint, et je ne remets pas en cause leur contestation. On propose une autre solution au Sable d'Olonne, il n'accepte pas la solution. Donc je comprends que le président de la Gorf soit bloqué, puisqu'il prend des décisions et il ne peut pas les appliquer. Donc il y a un problème véritablement de gouvernance. La mission sénatoriale pour la sécurité en mer et le sauvetage en mer va forcément se pencher sur cette problématique de gouvernance. La décision, elle aurait dû être trouvée au sein de la SNSM avec tous les présidents de station, c'est-à-dire qu'ils devaient se réunir et on n'attendait pas un mois et demi. Non, les politiques ne sont pas responsables de l'échec.
La station des Sables d'Olonne qui va devoir attendre la réparation de son ancien canot maintenant pour pouvoir reprendre les interventions en haute mer, ça ne sera pas avant le mois de septembre. En Afghanistan, les civils continuent de mourir à un rythme inacceptable. Conclusion d'un rapport de l'ONU sur les 6 premiers mois de l'année. Plus de 1360 civils tués, sans compter tous les blessés, environ 2400. Et les responsables du plus grand nombre de victimes ne sont pas forcément ceux auxquels on pense, Valérie Crova.
Ce sont les frappes aériennes afghanes et américaines qui ont fait le plus de victimes. 717 morts depuis janvier, 686 de plus que ceux attribués aux talibans et à l'État islamique. Un bilan amer que la mission des Nations Unies pour l'Afghanistan avait déjà pointé du doigt en avril. Dans un précédent rapport, la MANUA avait dénoncé le fait que les raids menés par la coalition internationale et l'armée de l'air afghane faisaient plus de victimes civiles que les groupes qui combattent sur la terre afghane. Comme ces 10 enfants tués lors d'une frappe aérienne le 22 mars dernier dans le nord de l'Afghanistan. Seuls les États-Unis mènent des opérations aériennes à côté des forces afghanes. Mais il n'y a pas que les bombardements qui tuent. Les munitions non explosées font aussi des victimes et notamment des enfants qui les touchent sans penser au danger. 327 petits Afghans sont morts ainsi en manipulant des bombes depuis début 2019.
Valérie Crova pour France Inter. C'est une décision qui a le mérite d'être saluée face à ce qui gangrène encore aujourd'hui le monde du foot. Le club anglais de Chelsea bannit à vie l'un de ses supporters racistes. Il se base sur toute une série de vidéos où l'on voit l'homme insulter et se montrer menaçant vis-à-vis de joueurs noirs. Plus d'accès au stade, ni même au centre d'entraînement donc. 5 autres supporters sont eux exclus temporairement.
La météo ? Avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
La météo avec Sébastien Léas, encore quelques averses ce soir et cette nuit, mais plus calme demain.
Oui, les averses sont encore régulières et même orageuses, notamment sur le nord-ouest, mais progressivement, le risque d'averses va devenir de plus en plus faible cette nuit, pour ne plus concerner que l'extrême-est, la Normandie et l'ouest des Hauts-de-France. Demain matin, quelques averses résiduelles joueront encore les prolongations au nord de la Seine et sur les contreforts du Jura et des Alpes du Nord. Et au fil des heures, le ciel va s'éclaircir et le soleil, déjà bien présent sur le sud-est du pays, va gagner du terrain. L'après-midi sera même bien ensoleillé, du pourtour méditerranéen à la Franche-Comté et à la Sologne jusqu'au sud de la Garonne. En marge d'une perturbation atlantique, le ciel sera plus mitigé entre la Vendée et la Bretagne. L'après-midi, le ciel breton restera même chargé et quelques averses pourront se développer.
Côté température, elles sont proches de la normale.
Oui, avec une hausse des températures sur le sud-ouest et une baisse sur le nord-est, les maximales de demain seront plutôt homogènes et à peu de choses près de saison. On attend 22 degrés à Saint-Brieuc, au Havre et à Aurillac, 23 degrés pour Valenciennes et Saint-Étienne, 25 degrés à Paris, Cognac, Biarritz et Auxerre et 27 degrés pour Strasbourg, Grenoble et Montauban. Autour de la Méditerranée, les températures seront un cran au-dessus, 31 degrés pour Narbonne, Nîmes et Carpentras, 33 degrés à Porto Vecchio et même jusqu'à 35 degrés dans le Var.
Sébastien Léas, prévisionniste à Météo France.